Supérieur général. Ce sont ces confrères-là qui enseignent, sont curés de paroisse et aussi sont investis dans l'enseignement. Ils enseignent la théologie mais en divers lieux du monde, mais aussi ils ont la tutelle d'établissements scolaires. Et ils réfléchissent intensément sur cette question. Une de leurs premières publications ensemble a été « L'Alliance éducative ». Un livre tout à fait passionnant. Et ils en ont publié beaucoup. C'est dans cette collection qu'ont été publiées les minorités créatives. Actuellement, le père Rosset est professeur de théologie morale à l'Institut pontifical Jean-Paul II. Et pour les études sur le mariage et la famille. Et très souvent, sur la couverture de ces livres, pas toujours, mais il y a comme co-éditeurs les deux padres Rosset qui ont bien voulu venir nous soutenir et nous aider à réfléchir. Alors, merci beaucoup de ce que vous allez nous dire.
Merci, mon père, et merci à vous tous, pour cette possibilité de partager des belles choses avec vous. Pourquoi est-ce qu'il y a des paroisses et des ordres religieux si vivants? La question des minorités créatives nous pousse à nous interroger sur la fécondité. C'est une question qui jaillit en nous lorsque nous voyons la surabondance de certaines familles et institutions qui vivent dans l'Église et dans la société. C'est la surprise que nous éprouvons face au débordement d'une vie qui s'épanouit et qui embellit de façon inusitée. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la subsistance de l'Europe, ni la permanence de l'Église comme structure sociale telle que nous la connaissons. Ce qui est en jeu, c'est plutôt la fécondité du Père. Mais quelle est cette fécondité qui est en mesure d'octroyer à notre vie, à nos amours, à nos relations, à nos occupations, à nos communautés, à nos espérances? Pour aborder ce sujet, nous commencerons pour observer d'où est venue la question des minorités créatives, puis nous passerons à analyser les spécificités de la fécondité chrétienne ainsi que sa façon de se transmettre dans l'amitié. Enfin, nous proposerons un certain nombre de points pour définir ce qu'est une minorité créative au sein de l'Église. Premier point. L'origine et développement de l'idée de minorité créative. Le sujet que nous abordons, c'est-à-dire les minorités créatives, a jailli d'un débat entre deux intellectuels de la première moitié du XXe siècle, Oswald Spengler et Arnold Toynbee. Tous deux avaient abordé une même question fondamentale. De quoi dépend la vitalité d'une civilisation? Les réponses furent cependant très différentes. L'auteur allemand Spengler, dans son ouvrage « Le déclin d'Occident », répond que la vitalité d'une civilisation suit le cycle vital d'un organisme vivant. En raison des symptômes qu'il observe en Occident, l'auteur conclut que notre civilisation est en train de vivre son étape finale. Ce qui se passera dorénavant fera partie des processus de déclin qui les conduira inexorablement à la mort. L'auteur anglais, Toynbee, insiste par contre sur le fait que ni l'origine ni le développement d'une civilisation sont des données de fait, tout comme chez l'organisme vivant, mais c'est plutôt le fruit de la réponse humaine apportée à un grand défi dont la fécondité, grâce aux facteurs religieux, alimente une nouvelle série de défis. Le déclin arrive, lorsque elle cesse d'affronter de nouveaux défis, soit parce qu'elle se réfugie dans une némésis de la créativité, une répétition, soit parce qu'elle se fait prendre par la hybris, ce désir si fort de dépassement de ses limites. L'aspect le plus intéressant de cette approche, c'est qu'elle met en recherche le fait que la réponse humaine, en tant que réponse créative, a lieu dans une minorité et non pas dans la solitude, ni dans la foule. C'est cela qui le pousse à espérer que l'Europe n'entame pas un processus de déclin et de désintégration. L'application de ces débats au moment historique vécu par l'Église a été menée par Joseph Ratzinger en 2004, dans le cadre d'un dialogue avec Marcelo Perra, repris en 2009 en tant que pape. Dans tous les cas, cette préoccupation concernant le rôle de l'Église dans le monde était déjà dans l'esprit de nombreux théologiens et intellectuels depuis la moitié du XXe siècle, au point de motiver la tenue d'un concile qui fut convoqué dans le but de favoriser un aggiornamento dans l'Église. Parmi ces théologiens, nous pouvons citer à Balthasar, qui par son ouvrage prophétique de 1952 intitulé « Raser les bastions », frayait un nouveau chemin pour l'Église, ouvrir la vigne renfermée dans ses murs, quitter le château, abandonner son espace fermé pour entrer dans le monde et se ramifier dans tout ce qui est humain, comme le fait le fleuve dans le delta, pour vivifier tout ce qu'il y a autour. Les fruits de ces visions, ainsi que d'autres facteurs, apparaissent clairement dans les approches conciliaires. Les pères conciliaires, bien entendu, ne pensaient pas que l'Église aurait pu être conçue comme étant une minorité créative dans la société. C'est le peuple de Dieu dont la mission et d'être signe d'unité. Cependant, malgré l'importance de raser les bastions et de détruire les murages, le cardinal Ratzinger lui-même reconnut les limites de cette approche. Ni le ghetto, ni l'entretemps ne peuvent résoudre à long terme le problème de l'âge moderne pour les chrétiens. Le fait est que la destruction des bastions que réclamait Balthasar en 1952 était en réalité une tâche à terme échue, disait Ratzinger. Pourquoi cette tâche est-elle arrivée à échéance? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de détruire des murs, mais il est plutôt question d'apporter une réponse créative aux nouveaux défis auxquels la société devait faire face après le concile. Voici comme le théologien Ratzinger voyait le futur de l'Église en 1970. Encore une fois, dit celui, de la crise d'aujourd'hui surgira demain une Église qui aura beaucoup perdu. Elle sera devenue petite. Elle aura à tout recommencer depuis le début. Elle ne pourra plus remplir beaucoup de ces édifices construits dans une conjoncture plus favorable. Elle perdra des adeptes et avec eux beaucoup de ses privilèges dans la société. Elle se présentera d'une manière beaucoup plus intense que jusqu'à maintenant, comme la communauté du livre vouloir, à laquelle on ne peut accéder qu'à travers une décision. Comme petite communauté, elle demandera avec beaucoup plus de force à chacun de ses membres des initiatives. Mais dans ces changements, qu'on peut supposer, l'Église rencontrera de nouveau et avec toute sa détermination ce qui est essentiel pour elle, ce qui a toujours été son centre, la foi dans les dieux trinitaires, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, l'aide de l'Esprit-Saint qui durera jusqu'à la fin. L'Église reconnaîtra de nouveau dans la foi et la prière son vrai centre et elle expérimentera de nouveau les sacrements comme une célébration et non comme un problème de structure liturgique. Et continue. Mais après l'épreuve de ces divisions, surgira d'une Église intériorisée et simplifiée une grande force, parce que les êtres humains seront indéciblement seuls dans un monde entièrement planifié. Ils expérimenteront, quand Dieu aura complètement disparu pour eux, leur absolue et horrible pauvreté. Et alors ils découvriront la petite communauté des croyants comme quelque chose de totalement nouveau. Christ, une espérance emporte pour eux, comme une réponse qu'ils ont longtemps cherchée à tâtons. Il me paraît certain, à moi, que l'Église doit s'entendre à des temps bien difficiles. Sa véritable crise a aujourd'hui à peine commencé. Il faut compter sur des forces secouées. Certainement, elle ne sera plus jamais la force dominante dans la société, dans la mesure où elle l'a été jusqu'à peu. Mais elle fleurira de nouveau et se fera visible pour les êtres humains comme la patrie que leur donne vie et espérance au-delà de la mort. Fin de la citation. Ce que Ratzinger entrevoit dans le futur déjà immédiatement après le concile, c'est d'une Église qui sera constituée comme une minorité créative grâce à la force de la vie qu'elle a en son sein. La question est reprise au début des années 80 par un philosophe écossais, Alasdair MacIntyre. À ce jeu, la modernité a provoqué un naufrage au sein de la société occidentale car elle a favorisé l'émergence d'un sujet émotionnel et utilitaire. Le début de son célèbre ouvrage « Après la vertu » montre que d'avant cette situation, il était inutile de chercher pour récupérer ce qui restait du naufrage et s'agir de reconstruire les navires. Cela ne sert à rien, car ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la vision d'ensemble, c'est-à-dire de ce tout duquel se sont détachés les fragments. Ainsi, nous nous sentons incapables d'en apprécier les rôles et les sens. Des mots comme bonheur, amour, liberté, vertu, excellence, pratique, ont cessé de renvoyer à un tout qui représente la grandeur et la beauté de la vie. À un début apocalyptique s'oppose une conclusion pleine d'espérance, disait MacIntyre. Si mon exposé de notre condition morale est correct, il faut conclure que nous sommes, nous aussi, parvenus à ce tournant. Nous devons nous consacrer à la construction des formes locales de communautés où la civilité et la vie intellectuelle et morale pourront être soutenues à travers les ténèbres qui nous entourent déjà. Si la tradition des vertus a pu survivre aux horreurs des ténèbres passées, Tout espoir n'est pas perdu. Cette fois, pourtant, les barbares ne nous menacent pas aux frontières. Ils nous gouvernent déjà depuis quelque temps. C'est notre inconscience de ces faits qui explique en partie notre situation. Nous n'attendons pas Godot, mais un nouveau et sans doute fort différent, Saint Benoît. L'espoir des philosophes écossais se pose en continuité avec celui de l'historien britannique et du théologien allemand. Face à l'écroulement ou aux naufrages de la société moderne, la seule solution à adopter, c'est la minorité créative. C'est là la seule façon de sauver ce que notre civilisation a su engendrer de beau et noble. C'est dans ce contexte que nous pouvons mieux comprendre les dialogues du cardinal Ratzinger avec le sénateur Perrin, et notamment les propos qu'en tant que pape, il a voulu adresser aux journalistes en 2009 lors de son voyage en République tchèque. Le point que l'idée minorative créative vise à mettre en exergue n'a rien à voir avec une église retranchée et protégée par des bastions, ni avec une église aux aguettes, défendue par des murs, ou encore d'une église intimiste, éloignée de l'humanité, ou élitiste et oubliée des hommes simples. C'est plutôt une église qui a le pouvoir de féconder la société en vertu de la grandeur de ce qu'elle vit en elle-même. Le sujet de fond, c'est qu'en question. La question sur la fécondité. Quelle est la fécondité à laquelle l'Église est appelée? Il ne s'agit certainement pas d'une question de chiffres ni d'efficacité. Le travail de l'Église ne dépend pas d'une stratégie humaine, mais plutôt d'une action divine. Elle concerne le pouvoir que possède l'esprit de pénétrer la chair et de la transformer. La fécondité apparaît lorsque l'esprit que l'Église transmet introduit la chair du croyant dans les processus de divinisation. D'argile à homme et d'un homme à Dieu. C'est là la tâche que le Saint-Esprit mène dans l'Église. Conduire à sa plénitude le dessein originaire du Père. Le fait est que la fécondité dépend effectivement du don que l'on reçoit, mais aussi de la façon dont on le reçoit. Le Saint-Esprit est reçu non pas par un homme abstrait, mais plutôt par l'homme concret qui s'est formé grâce à la culture dans laquelle il se trouve. Chaque société a structuré son univers culturel de façon différente, selon les défis qui lui ont été posés, tel que l'a parfaitement expliqué Toynbee, l'historien. Parmi ces défis, nous pouvons citer la grande question du sens que l'homme peut exprimer par l'interrogation suivante : où se trouve Dieu ? C'est bien là la matrice théologique de chaque société, où se trouve Dieu. La réponse a été différente selon les sociétés qui l'ont apportée. La société grecque a répondu que Dieu se trouvait dans la pensée, et l'Église avait été en mesure de trouver une nouvelle fécondité dans le développement de la doctrine. La société romaine, à son tour, indiquait l'organisation juridique, ce qui permit le développement de l'organisation ecclésiale. Mais à la chute de l'Empire, les réponses indiquaient la petite communauté, ce qui conduisit à l'expansion des monastères. Au Moyen-Âge, par contre, la réponse consistait à indiquer la societas, unie par une même vision et pouvoir. Et cela favorisait la naissance de nouveaux ordres mendiants dans les tissus urbains. Au début de l'époque moderne, la réponse indiquait la subjectivité. Dieu se trouve dans la subjectivité. Ça veut dire la conscience. C'est là que se trouvait Dieu, au-dedans de l'homme. C'est ainsi que se développa une nouvelle façon de vivre le christianisme, par lequel Saint Ignace, entre autres, entama un chemin singulier en communion avec le pape, ce qui marqua la différence par rapport à la solution protestante. Mais cette matrice théologique de la modernité, qui pendant 5 siècles a généré un chemin dans lequel l'esprit humain était assimilé au processus de déification, est désormais épuisée. Et elle n'est plus en mesure d'engendrer quoi que ce soit. Aujourd'hui, les personnes ne trouvent plus Dieu dans leur conscience. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus en mesure de trouver une vérité qui aille au-delà de leur conscience. Il y a eu un étrange processus d'assimilisation dans lequel la voix de Dieu se confondent avec sa propre voix et les sanctuaires dans lesquels se rendre pour l'écouter devient une tour où s'enfermer pour se protéger de la transcendance de Dieu et de son vérité. C'est ainsi que nous comprenons les drames de deux processus indiqués par Toynbee. La némésis, la répétition de la créativité, enferme l'homme dans son immanence. Ni les formules, ni les actions qu'il répète sont en mesure de générer un univers symbolique où trouver la grandeur de la vie. Il n'y a plus l'hybris, les désirs, face à la tentative de dépasser ses limites, d'aller au-delà de sa nature et en train de les conduire vers une idée d'autogénération de soi-même qui refuse les rapports fondamentaux de filiation, c'est-à-dire le concept du recevoir, tel qu'on peut voir dans les drames de l'idéologie du gendre. Et alors, où est-ce que les gens peuvent trouver Dieu aujourd'hui? Ou mieux, où est-ce que Dieu peut dynamiser la vie de nos contemporains? Apparemment, une première réponse consisterait à indiquer les expériences dans lesquelles on privilégie la transcendance de Dieu, comme dans le cas des groupes qui mettent en exergue le mystère de la divinité avec une clé interprétative émotionnelle. Ou bien celle qui privilégie une immanence de Dieu dans le monde, comme cela arrive dans l'interprétation du christianisme à partir de la solidarité. Cependant, ni la première ni la deuxième interprétation n'affrontent la nouveauté du défi qui se pose à cette modernité tardive, ce qui explique la grande fragilité et l'inconstance de ce que suivent l'un ou l'autre de ses réponses. La nouveauté des défis que la modernité tardive pose à l'Église a un aspect particulier. L'homme tardo-moderne est seul, incroyablement solitaire dans un monde planifié, comme disait Ratzinger. Nous assistons désormais à une désocialisation, c'est-à-dire à une dissolution des relations qui permet de préserver l'unité des hommes dans une société. Si Dieu n'entre pas dans cette solitude pour engendrer de nouvelles relations, alors ce sera un Dieu marginal, résiduel. Ainsi, il nous fait donc comprendre les causes de cette solitude. L'une d'entre elles, c'est l'absence du Père. Aujourd'hui, le Père s'est éclipsé. Il a évaporé. La tâche principale du Père consiste à ouvrir un futur pour son Fils. C'est à lui que revient la responsabilité de l'accompagner vers son destin en lui rappelant le mystère de son origine. L'homme, dans cette modernité tardive, est un homme orphelin. La caractéristique de cette modernité tardive, c'est l'orphanité. La crise de la paternité concerne non seulement les familles, mais aussi la société. Notre société occidentale est une société sans père, parce que personne ne relève la responsabilité du futur des citoyens. C'est le présent qui importe. Et l'Église. La crise de leadership que vivent les clergés et l'épiscopat est aussi une crise de paternité qui concerne la nécessité d'assumer le chemin de plénitude des fidèles, le chemin de déification où l'être humain, avec sa propre densité, est ordonné à quelque chose de plus grand. Qui est-ce qui se charge aujourd'hui de rappeler à l'homme la grandeur et la beauté et la vérité de ce qui est humain? Qui est-ce qui lui explique la vérité de ses expériences, de ses sentiments? Qui est-ce qui lui rappelle le projet original de Dieu gravé dans son corps depuis ses origines? Et qui est-ce qui l'accompagne sur le chemin qui le conduira vers son destin? Où se trouve Dieu? La réponse à cette question n'est pas facile. Le sociologue Donati termine sa recherche en affirmant « À la question qui consiste à se demander où se trouve Dieu, le monde postmoderne avance une réponse qui est simple d'un côté, mais énigmatique de l'autre. Dieu se trouve dans la relation, parce que c'est une relation où, en d'autres termes, Dieu ne peut pas être vu dans les totems, dans les bois ou dans les grands esprits du cosmos, mais il peut être vu dans ce qui relie les hommes les uns aux autres, malgré eux-mêmes, malgré leurs inclinations et qui est plus contre eux-mêmes. Ainsi, Dieu se trouve avant tout dans les dialogues interpersonnels que la relation comporte à partir du moment où elle est prise au sérieux comme relation humaine et donc relationnellement divin. La fécondité de l'Église réside dans l'offre d'une nouvelle matrice théologique pour une société assoiffée de relations. C'est ainsi qu'elle répond aux défis posés par la modernité tardive en donnant un élan créateur tout à fait nouveau. Dieu, comme être relationnel, peut engendrer des relations chez l'homme, entre les hommes eux-mêmes, entre l'homme et la création, Et précisément dans cette relation, il peut lui-même se rendre présente. L'axiome tiré de Saint-Irénée, d'argile à homme et d'un homme à Dieu, peut être accepté aujourd'hui afin que l'argile, c'est-à-dire la chair, devienne relationnelle et puisse vivre la relationnalité à partir de la filiation. Donc, dans l'accueil reconnaissant des dons reçus. C'est ainsi que l'homme pourra s'ouvrir à une espérance nouvelle dans la chair relationnelle que lui permettre d'être frère et devenir époux pour arriver à être père. L'homme pourra arriver à être Dieu si l'esprit de relation génère en lui une véritable relationnalité humaine. La tâche qui revient à l'esprit consiste donc à conduire ces relations jusqu'à leur plénitude. Voilà sa fécondité. C'est ainsi qu'apparaît Dieu, que rendre la vie grande et belle, bien au-delà d'une vision qui refuse ses dieux, coupable d'envenimer ce qui est humain. Troisième part, minorité créative comme amitié pour vivre la grandeur de l'humain. L'Église, mystère du communion, offre une nouvelle matrice théologique à la société. Celui qui entre en contact avec elle reçoit un esprit qui pénètre l'humain et établit des rapports entre les personnes. C'est ainsi que devient possible la morphogenèse de la relation. L'esprit est capable de descendre en profondeur dans les relations entre les êtres humains pour les entraîner vers un dépassement de ce qui est simplement humain, car il leur permet de s'ouvrir à la filiation divine en accueillant les desseins de Dieu sur ces relations. Tout comme les fleuves se ramifient pour dessiner les deltas et pour vivifier le terrain grâce à ses eaux, de la même façon, l'esprit se ramifie dans les relations vécues par l'homme et il les vivifie en les s'ouvrant au mystère de la paternité divine. Les minorités créatives sont donc des communautés, des personnes dont les relations ont été vivifiées par l'esprit, afin que ces êtres puissent les vivre comme des véritables enfants, en accueillant un don et un dessein qui n'est pas le fruit de leur intelligence ni de leur désir. Ces communautés pourraient être appelées arches de Noé. En prenant la belle typologie que les pères de l'Église avaient appliquée à l'Église. Or, cette typologie ne paraît pas appropriée aujourd'hui, car on lui rapproche de faire allusion à un déluge. Certains pourraient penser, peut-être, que cela sous-entend un jugement négatif de la société et de la culture actuelle. De plus, elle suppose une conception défensive du christianisme qui se renfermerait sur lui-même, presque comme dans un ghetto, alors que ce qu'on lui demandait, c'est justement de détruire les bastions. Or, la critique de la culture actuelle ne vient pas tout d'abord des domaines ecclésiastiques. L'historien Spengler, nous l'avons vu, fut le premier à mettre en exergue les processus de déclin qui avaient commencé à frapper l'Occident. Et bien des années après, McIntyre parlait des naufrages. Qui pourra le nier. Nous connaissons tous les difficultés que vivent nos contemporains lorsqu'il s'agit de découvrir et de vivre la grandeur de l'humain dans une société liquide comme la nôtre. Par ailleurs, l'arche est appelée à naviguer en traversant les flots de l'humanité pour les régénérer. À mes yeux, le défi que nous devons relever aujourd'hui ne consiste pas simplement à aller dans le monde pour l'irriguer, mais il nous faut irriguer nos relations pour en régénérer les desseins originaires du Père. Sorti, aller dans le monde sans comprendre et sans avoir régénéré la relationnalité entre nous-mêmes, cela veut dire offrir un Dieu qui comblera peut-être les besoins émotionnels et de solidarité, mais qui ne permettra pas à l'être humain de s'épanouir. Et qui plus est, celui qui s'adressera au monde de cette façon court le risque de se diluer. Tout au-dedans de l'arche est symbolique. Disait Saint Jean Chrysostome, le reçu des déluges est un sacrement et c'était une figure des choses à venir. L'arche et l'Église, Noël et Christ, la colombe, l'Esprit Saint, la branche d'olivier, la philanthropie divine. De même que l'arche protégeait au milieu de la mer ceux qui étaient à l'intérieur, ainsi l'Église sauf ceux qui sont égarés. Mais l'arche protégeait seulement. L'Église fait plus. Par exemple, l'arche recevait les animaux sans raison et il les gardait tels. L'Église reçoit des hommes sans logos et ne fait pas que les garder. Elle les transforme. Voyons quelles sont les caractéristiques de cette minorité créative si nous appliquons la typologie de l'arche ainsi qu'une réflexion sur ce que c'est l'amitié. Noé, premier point, c'est le Christ. Le Christ est donc le principe d'une humanité nouvelle qui, en lui, réunit début et fin comme un nouvel Adam. La nouveauté reçue par celui qui entre dans l'arche, c'est la transformation, l'assimilation à Jésus-Christ, la réception de son logos. L'amitié naît entre les personnes lorsque les amis reconnaissent un même destin, une même plénitude. Entrer dans l'arche, cela veut dire reconnaître et vouloir la même plénitude. Dans la polémique des premiers siècles concernant la réadmission à la communauté des pécheurs et des apôtres, des apostates, il avait été mis en évidence que Noé avait accepté d'accueillir dans l'arche aussi bien les animaux purs et les impurs, et que par conséquent, l'Église aurait dû réadmettre celui qui avait péché. Augustin s'attacha même à montrer que l'arche avait une seule porte et que tous, animaux purs ou impurs, avaient dû la franchir sans pouvoir emprunter une autre entrée. Passer par cette porte, qui est le Christ, veut dire reconnaître son logos comme le logos de l'humain. La minorité créative reconnaît que Jésus est le nouveau début, et que c'est seulement en les suivant qu'il est possible de vivre la grandeur et la beauté de l'humain. Alors que si on s'en tient à l'écart, cette grandeur et cette beauté sont impossibles à atteindre. La colombe, c'est l'esprit, deuxième point, qui descend sur l'arche comme elle descend sur Jésus-Christ et à partir de lui sur l'Église. La minorité créative vit de la philanthropie divine en nous donnant l'esprit, c'est-à-dire de la charité qui est amitié avec Dieu et pas seulement bienfaisance. La tradition théologique a vu dans la charité la mère et la forme de toutes les vertus, justement parce qu'elle unissait à une fin si fascinante que c'est depuis l'amour envers cette fin qu'elle générait de nouveaux désirs aux chaleurs de la fin. Le point, c'est que la charité ne court-circuite pas l'humanum, ça veut dire la prudence. La charité est forme, pas en donnant les spécificités aux vertus, mais en les ordonnant aux vraies fins, comme forme effective, dit saint Thomas. Cependant, cette réflexion ne prend pas le contexte relationnel des vertus. Aujourd'hui, on peut aller plus loin et comprendre que dans la minorité créative, la charité est la forme et la mère des désirs relationnels et donc des vertus relationnelles. Il ne s'agit pas seulement de dire que c'est de la charité que j'agisse les vertus des sujets individuels, mais plutôt et surtout que c'est elle qui engendre les vertus qui permet aux personnes de vivre en communion et à la relation d'être elles-mêmes vertueuses. Beaucoup de fois, nous trouvons des personnes formidables. Une personne formidable, l'autre personne formidable. Mais la relation n'est pas formidable. Alors la charité engendre les vertus de la relation, de la relationnalité. Ceci étant, nous pouvons affirmer que la minorité créative n'est pas faite de grands individus, mais plutôt de personnes capables de vivre en relation. La charité, s'agissant d'amitié, génère la confiance, la capacité de travailler en équipe, la disponibilité à accueillir l'autre, l'obéissance comme perfection de la prudence qui est en écoute et qui veut gouverner la vie, non pas à partir d'un critère personnel, mais à partir de la communion. Fait agir aussi de la concorde qui pousse à aimer la même chose, y compris la solidarité commune. La plénitude relationnelle vécue dans la minorité créative comporte donc une excellence de la relation en tant que telle, qui jaillit de la charité. Troisième point. L'arche est faite suivant un projet bien précis qui respecte des mesures et des indications concrètes. Un bois résineux, 3 étages à compartiments séparés, une seule porte d'entrée, une lucarne, le tout calfaté par du bitume. Tout ceci montre la nécessité d'une structure dans l'organisation interne et des pratiques. La minorité créative requiert la recherche de la plénitude selon des pratiques concrètes, réalisées en commun, qui sont devenues une tradition et qui s'y transmet de génération en génération. Les aspects décisifs de ces pratiques consistent à faire en sorte que ces protagonistes cherchent en elles les biens humains spécifiques de la pratique en question, comme par exemple le fait de former une famille, de rechercher la vérité, de louer le Seigneur, de construire une société, etc. Mais tout cela en les ordonnant, c'est bien, vers la plénitude du Christ. Un autre élément important est que ces pratiques doivent être voulues et réalisées ensemble, grâce à la concorde. L'humain devient donc relevant, il acquiert une couleur et une saveur inédites et transforme tous ceux qui s'y engagent. Quatrième point de l'arche. Ceux qui entrent dans l'arche sont des familles. Quatre couples, des parents avec leurs trois enfants et leurs trois épouses. La minorité créative doit aujourd'hui faire face à la solitude des personnes. Cette dernière découle des privations causées par la fragilité, l'absence du père, la peur de dire pour toujours, la peur de la fécondité. C'est l'esprit qui, par les sacrements, régénère le dessein originaire du Père et effrite les résistances qui culturellement tourmentent nos contemporains. Or, en entrant par la porte du Christ, l'on reconnaît la seule paternité du Père dont découlent les autres paternités. Le Père et la Mère dans la famille, les responsables dans la minorité, l'évêque dans son diocèse, le pape dans l'Église. Le fait de reconnaître cette seule et unique paternité permet d'établir une fraternité commune dans laquelle chacun a son rôle à jouer, où la différence est un enrichissement. La minorité créative déborde de cette plénitude en offrant l'esprit et en accompagnant les familles par des pratiques adéquates et importantes qui permettent de renforcer les liens constitutifs entre les époux, entre les générations, entre les familles et le travail. C'est seulement par ces alliances qu'il sera possible de vaincre la privatisation de l'amour par laquelle la culture parvient à stériliser l'expérience humaine. Cinquième point de l'arche. Il y a un temps qui s'écule entre la construction de l'arche et le cataclysme du déluge. L'interprétation de ces délais inquiétait les pères de l'Église, qui l'appliquaient à leur doctrine sur les millénaires. Ce temps ne finit pas dans la destruction, mais dans la résurrection, comme montre l'interprétation des 8 personnes sauvées comme les huit jours de la création. Ce que c'est important pour les pères, c'est comment le temple s'ouvre à la récréation d'une nouvelle humanité en l'unité du projet du Père. Aujourd'hui, nous pourrions l'interpréter comme le temps qu'il faut pour que la minorité créative puisse arriver à maturité et pour que sa plénitude puisse être communiquée. Elle doit avoir le temps de faire mûrir le cœur des personnes, c'est-à-dire leurs amours et leurs désirs, leur façon de voir les choses et surtout les relations et leur concorde. C'est seulement de cette maturation que pourront jaillir des pratiques créatives comme dans lesquelles l'on pourra vivre la plénitude de l'humain ordonné à Dieu. C'est la fécondité de l'espérance qui permet d'observer une communauté et d'espérer qu'elle portera des fruits, car les bases pour que cela arrive existent. Le fait de vérifier cette expérience n'est pas quelque chose qui découle uniquement de l'observation de la subjectivité des personnes et de leurs sentiments, mais plutôt des actions qu'elles accomplissent ensemble. Saint Thomas compare les rapports entre la fleur et le fruit en l'appliquant à l'action. Nos actions sont comme les fleurs qui annoncent un fruit grâce au parfum et à la beauté qu'elles possèdent. Le fruit sera la béatitude que l'on attendra. Or, cet un est également celui qu'il faut pour transmettre la plénitude que l'on vit. C'est ainsi que s'ouvre une nouvelle dimension concernant la raison pour laquelle une minorité est créative. C'est-à-dire pour qu'elle est en mesure d'offrir des pratiques qui, au fil du temps, éveillent des adhésions et débordent de plénitude. Si dans la modernité, l'aspect fondamental consistait dans le défi du savoir et l'Église se concentrait sur le travail de l'intelligence, dans la modernité tardive, dans la postmodernité, ce qui est fondamental, c'est d'introduire les personnes aux pratiques, les inviter à cheminer, même si elles ne sont pas convaincues ou ils ne croient pas. Le pape Benoît voulut proposer une méthode pour surpasser la sécularisation d'Occident, vivre comme si Dieu existait. Il était convaincu des faits que l'action aurait détruit les préjugés et ouvert l'homme à la foi. Le pape François, à son tour, exprima ce concept avec véhémence dans sa première encyclique, Lumen Fidei. La foi voit dans la mesure où l'on marche. Ce que c'est important est commencer à marcher. Et tu verras après. De la même façon, nous pourrons citer les autres aspects qui comportent la vie humaine quant à l'espérance, à la charité, aux vertus et aux responsabilités humaines. Vivre comme si tu aimes à ton époux et tu finiras pour l'aimer. Vivre comme si tu cherches les biens communs et tu finiras pour bâtir la société, etc. La minorité créative est en mesure d'accompagner les temps des personnes en offrant des pratiques et en les réalisant ensemble. De la même façon, elle utilise exactement la même méthode qui consiste à agir en commun avec tous ceux auxquels elle s'adresse. Conclusion. Quand est-ce qu'une minorité est-elle créative? Quand elle affronte les nouveaux défis en offrant un nouveau chemin de plénitude. Les défis que la société doit relever aujourd'hui concernent la décomposition des relations et la solitude dans laquelle l'homme est plongé. Le don de l'Église comme minorité créative est celui d'une amitié débordante qui, dans les pratiques auxquelles elle invite, parvient à se communiquer et à s'effrayer un chemin de plénitude dans lequel l'humain rejoint le divin. Dans cette amitié, ce qui importe n'est pas le sentiment qu'on éprouve, ni l'utilité qu'on en tire, mais ce sont plutôt les biens que nous communiquons par les biens des pratiques que l'on réalise ensemble. La minorité créative apparaît donc comme une arche de Noé qui n'est pas refermée sur elle-même, mais qui est belle et bien ouverte. Elle attire tout ce qu'elle touche par les biens des pratiques en les faisant participer de sa vie. Si l'Église veut emprunter un chemin de fécondité dans une Europe en déclin, elle doit prendre au sérieux la vitalité des petites communautés. Elles sont les grains des sénèves, s'élever, appeler à pousser les levains qui ont le pouvoir de faire lever la pâte. Merci bien.